E-radio, la chronique philo d'Alain Anquetil.
Nous accueillons chaque semaine Alain Anquetil, professeur de philosophie morale à l'ESCA, école de management, pour une chronique de philosophie pratique. Bonjour Alain.
Bonjour Laurence.
Aujourd'hui, 8 mars 2021, journée internationale des droits des femmes, vous avez choisi de nous parler de l'idée d'une égalité parfaite entre les femmes et les hommes.
Oui, cette idée se trouve dans l'œuvre du grand penseur anglais du 19e siècle, John Stuart Mill. Elle est issue d'un ouvrage qu'il publia en 1869, « L'assujettissement des femmes ». Son épouse, Harriet Taylor, morte 11 ans avant sa parution, l'a influencée comme elle a influencé dans une certaine mesure l'œuvre morale, politique et économique de Mill. Alors je vous cite le seul passage en introduction où il utilise le concept d'égalité parfaite. « Je crois, dit Mill, que les relations sociales des deux sexes, qui subordonnent un sexe à l'autre au nom de la loi, sont mauvaises en elles-mêmes et forment aujourd'hui l'un des principaux obstacles qui s'opposent au progrès de l'humanité. Je crois, continue Mill, qu'elles doivent faire place à une égalité parfaite, sans privilège ni pouvoir pour un sexe, comme sans incapacité pour l'autre. »
Pourquoi parler d'égalité parfaite? Le mot égalité ne suffit pas, Alain Anquetil?
Oui, c'est juste, et l'expression n'est à ma connaissance pas beaucoup utilisée. Il n'en est pas question, par exemple, dans la description du thème de l'édition 2021 de la Journée internationale des droits des femmes, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19.
Il y est question de réalisation de l'égalité, mais l'adjectif parfait n'est pas utilisé.
Non. Peut-être n'en a-t-on pas besoin aujourd'hui, mais alors pourquoi John Stuart Mill l'a-t-il utilisé il y a un siècle et demi? Disons tout de suite qu'il n'est pas le premier à en avoir fait usage. Par exemple, David Hume, philosophe écossais du XVIIIe siècle, l'a employé dans au moins deux contextes. Le premier n'était pas celui de l'égalité des droits et des conditions entre les hommes et les femmes, c'était celui de l'égalité parfaite des possessions, je le cite, au sens d'une égale distribution de la propriété. Un système que Hume estimait peu réaliste et pernicieux s'il était mis en pratique, car pouvant conduire à la tyrannie. Cependant, dans son essai sur l'amour et le mariage, Hume écrivait en 1741, je le cite, « Je souhaiterais qu'il n'y eût plus des deux côtés, c'est-à-dire du côté de l'époux et du côté de l'épouse, aucune prétention à l'autorité, mais que tout s'accomplit avec une parfaite égalité, comme entre deux membres égaux d'un même corps. »
L'image est belle. Il parle d'une égalité stricte qui ne peut pas être remise en cause par qui que ce soit.
Cela correspond à l'idée de Mill, mais celui-ci définit plus précisément que Hume ce qu'est l'égalité parfaite. Elle est, selon Mill, sans privilège ni pouvoir pour un sexe, comme sans incapacité pour l'autre. On sait qu'à son époque, la deuxième moitié du XIXe siècle, ce sont les hommes qui disposaient des privilèges et du pouvoir, et les femmes qui étaient frappées d'incapacité, par exemple pour jouer un rôle dans les affaires publiques. La phrase fait vraiment référence à ces conditions sociales. Émile n'était certainement pas exempt de tous les préjugés de son temps à l'égard des femmes. Il n'empêche qu'il introduit dans l'idée d'égalité entre les femmes et les hommes celle de perfection. Pour atteindre la perfection, il élimine ce qui peut élever un genre par rapport à un autre, le genre masculin ou féminin, et élimine ce qui peut rabaisser un genre par rapport à l'autre. Autrement dit, il n'y a rien à ajouter à l'égalité parfaite. Elle représente la perfection de l'égalité, une égalité qui ne peut tolérer aucune exception.
Merci beaucoup Alain Anquetil, à la semaine prochaine.
C'était la chronique philo d'Alain Anquetil, à retrouver en podcast sur euradio.fr.